Bienvenue dans la voix des aînés. Il était une fois l'écologie.
Nous, on avait intérêt à avoir un jardin pendant la guerre. On y faisait nos légumes, on y faisait toutes ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait à cultiver des navets ou des carottes alors qu'on va à Super U, on en achète 500 grammes ou 1 kilo. C'est ça qui a changé. C'est la possibilité qu'on a et qu'on n'avait pas à l'époque.
Épisode 2, se nourrir, potager, petit commerce et grande surface.
Heureusement qu'il y avait les supermarchés. Ça fait combien d'années maintenant les supermarchés? Il y a bien 50 ans. Ben, c'est-à-dire qu'on compare les prix. C'était plus intéressant d'aller dans les grandes surfaces que dedans. Et encore maintenant.
En 1930, donc j'avais 8 ans, ben, il n'y avait pas encore de supermarché à ce moment-là. Hein. Donc le petit commerce continuait à vivre normalement. C'est après 1930 que l'idée de grand commerce est arrivée, qui a détruit en partie le petit commerce. Le problème n'existait pas auparavant parce que les gens n'avaient pas de voiture.
Jean a raison de rappeler cette date de 1930, car tout commence à cette époque. D'abord aux États-Unis, dans les années 20, puis en France, où le premier ancêtre du supermarché ouvre ses portes en 1931, rue Caumartin, à Paris. Il vend des produits de grande série, à bas prix. Dans le monde rural, les liens entre consommateurs et producteurs resteront directs encore quelques dizaines d'années. Marie-Thérèse se souvient de l'histoire de ses parents et de la laiterie.
Du côté de ma mère, ils étaient 9. Du côté de mon père, ils ont été 12. Donc, les enfants devaient se brouiller avec leurs mains. C'est tout. Voilà. Mon père s'est marié. Il a repris une ferme laiterie du côté de Lille. Il y avait un petit peu de terre pour faire du foin, mais très peu. Mais c'est surtout des vaches laitières qu'il y avait. Alors là, il gagnait l'argent en trayant. Ma mère distribuait du porte-à-porte avec des bidons. Elle faisait tous les environs pour vendre le lait. À pied avec sa charrette.
Donc tout le monde avait son pot à lait?
Ben, ils mettaient à la porte. Et on savait d'habitude ce qu'ils avaient besoin. Donc ma mère mettait avec, vous savez, un machin exprès, qu'elle puisait avec un manche. Et puis hop, donc on mettait dedans, puis c'est tout. Puis ils payaient à la fin du mois, ou ils payaient à la semaine, enfin voilà, c'est comme ça. Et elle connaissait beaucoup, beaucoup de monde, hein, parce qu'elle allait dans toutes les maisons. Hein.
Pour nous parler du côté consommateur, nous avons rencontré Aimé. Mais laissons-lui le privilège de se présenter.
Bon, alors me présenter, ben, j'ai 82 ans. Je suis né le 7 mars 1938 à Veugleville-sur-Scie, dans la Seine-Maritime. J'avais un papa qui travaillait à la SNCF. Quand on avait besoin de crème, bon, ben, j'allais avec mon petit pot. Madame Roy me disait, oui, bon, ben, va-t'en. Alors, en partant, on disait, tu feras bien attention à ma barrière, hein, parce que je crois qu'il y en a un qui est passé. Oui, madame. Je fonçais, je refermais le bas de la barrière, tout et tout, et puis... Moi, on m'avait pas fait payer ma crème. Ah, mais je suis volé. Oh, jamais on me faisait payer. C'était, jamais. Il y avait combien? 250 mètres pour aller à la ferme. 250 mètres, pas plus. Moi, je sortais du passage à niveau, je faisais 50 mètres sur la route, je descendais son petit chemin, puis j'arrivais tout de suite à la ferme.
Et puis la guerre est arrivée. Se nourrir devint vital, la campagne un lieu de repli.
Parce qu'on a été occupés par les Allemands et on produisait ce qu'il y avait dans les jardins et c'est tout. Hein. On avait du pain rationné, il y en avait des tickets. C'était l'horreur, l'horreur.
On n'avait pas de bocaux non plus pour faire les conserves. Alors on prenait des bouteilles à cidre, vous savez, des bouteilles vides. Et on les enfilait, je me souviens, je vois encore les haricots qu'on enfilait dans des bouteilles et que ma mère faisait stériliser.
Vous savez, on se débrouillait avec beaucoup de choses. Et au point de vue alimentation, c'était avec des choses qu'on trouvait dans la campagne.
Je vois le pain était fait par Lucienne dans le four, le potager par Mirman, la saucisse venait de la ferme, les oui. agneaux du troupeau.
Oui.
Pour André, qui était encore une enfant, ces années-là se résument en quelques phrases, où le pain et la mort retrouvent toute leur place.
42, 43. J'avais un grand-père dans la campagne. Alors là, on est parti chez mon grand-père. On avait une tante qui venait. Et cette tante partait en vélo. On avait un moulin pas loin. Elle essayait de nous trouver de la farine. Et ma mère faisait du pain dans une cocotte. Et on l'aimait, ce pain. Parce qu'on n'avait pas de pain. Et cette tante a été dénoncée. On a su qu'elle avait été blessée. Mon grand-père a attelé le cheval. On avait un cheval. A attelé le cheval à une carriole pour aller chercher ma tante blessée sur la route. Elle n'a pas survécu, donc elle est morte.
Après-guerre, le changement de société repart de plus belle. On veut de la modernité et on rêve de l'American way of life.
Ça vient des Américains, parce qu'on avait quand même eu des restrictions pendant la guerre. Et quand ils sont arrivés, qu'ils nous jetaient des volets de bonbons, de boîtes de conserve, vous vous rendez compte? On se mettait sur le bord des routes, on les acclamait, les gamins, là, pendant des heures. Et alors, on recevait des chewing-gums, des bonbons, du chocolat et des boîtes de conserve, dont des conserves de viande. Et on n'avait pas besoin de conserves de viande entre nous, surtout en Normandie, on n'en avait pas besoin. Mais c'était des conserves, c'était un mot un petit peu magique d'avoir des conserves. Et je me souviens, c'était marqué en anglais évidemment, le mot « meat » qui veut dire « viande ». Et pour moi, ça a été le début de la consommation. Parce qu'à ce moment-là, il fallait avoir, il fallait consommer, et voilà. Et puis après, ça a pris de l'extension. C'était la modernité, forcément le progrès. Alors on peut se poser la question maintenant, c'est quoi le progrès? C'est ce qu'on voit actuellement? Ouais.
Toute cette ambivalence vis-à-vis du progrès, je la retrouve dans les témoignages. Ils en ont rêvé de cette modernité, mais aucun ne m'a parlé avec poésie des supermarchés. Par contre, André, avec son talent de conteur, nous amène faire les courses à Nogent-l'Artaud.
Ma mère allait chez Pete, chez le charcutier, chercher du jambon, comme on en trouve plus aujourd'hui. Le jambon, je vois encore les tranches de jambon, Madame Pete. C'était un délice. Je n'ai jamais remangé du jambon comme en faisait Madame Pete. C'est elle qui tuait le cochon et faisait tout. Ah oui, ça, le jambon. On descendait à la gare, un quart d'heure en avance, parce qu'il fallait passer chez Madame Pitt pour faire les sandwichs dans le train. Et ça, c'était le régal, les sandwichs dans le train. Ah ! D'ailleurs, à l'époque, on faisait toutes ces courses, comme on disait, sur la commune. On allait chez Madame Massé sur la place, comme on allait chez Bébert Savoie dans la grande rue, comme on allait à la Coop et chez Bression en face. Il y avait tout sur la commune. C'était les sieurs qui courent. Quand on allait chez le boucher, oh ben c'est la ferme des Chênais qui produit ce veau-là. Tiens, le bœuf qu'on mange la semaine prochaine, c'est le Val qui l'a élevé. On savait d'où ça venait.
Les circuits courts, le mot est lâché par André, du producteur au consommateur. À cet égard, l'histoire de l'entreprise Gervais est bien intéressante. La recette du petit Suisse démarre dans une ferme à la fin du 19e siècle. Il est inventé par une fermière, Sophie Julie Héroux, et un vacher d'origine suisse dont je n'ai pas retrouvé le nom. Sophie Julie vend d'abord ses petits Suisses sur les marchés locaux. Ils ont très vite du succès et attirent l'attention de Charles Gervais. Charles Gervais, à cette époque-là, est commis aux Halles. Il lâche tout pour se lancer dans la fabrication des petits Suisses. Très rapidement, il souhaite les vendre à la capitale. Les fromages frais sont alors acheminés en calèche jusqu'à Paris, rue du Pont-Neuf. Pour la suite, écoutons Suzanne.
Mon mari travaillait chez Gervais, il livrait dans Paris. Dans Paris, lui, des commerçants. Il livrait avec les petits chevaux. Puis c'était des bêtes, c'était des bêtes comme ceux qui jouent au tiercé, là. C'était pas des bourrins, hein, c'était des bêtes. Puis ils avaient leur charrette. Chez Gervais, il y en avait une vingtaine comme ça, qui étaient devant la porte de la maison Gervais. C'était tous les livreurs, mon mari en faisait partie. Et je vous dis, il a livré ça dans Paris pendant des années. Tous les lundis, mon mari, il allait nettoyer la place de son cheval. Il allait laver son cheval, laver sa place, tous les livreurs faisaient ça. J'ai eu pendant longtemps des cendriers avec les chevaux dessus qu'ils avaient. J'en ai donné à l'un à l'autre, et puis si bien que j'en ai même plus pour moi. On s'est mariés en 51, et c'est ce qu'ils faisaient déjà à cette époque-là. Au fur et à mesure, les voitures, il y en avait de plus en plus, et les chevaux avaient peur des voitures. Alors ils ont supprimé les chevaux. Ils ont eu d'abord les camions, les petits camions Gervais, qui conduisaient dans Paris. Quand il a fallu qu'ils fassent la nuit, c'était les gros camions. Alors là, les gros camions de comment je viens dire, 5 tonnes, là. Mais il livrait toutes les grandes surfaces. Lui, c'était du côté de Fontainebleau. Puis le reste, je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait la nuit, moi. Hein. Moi, je dormais la nuit. Il livrait plus chez les petits commerçants. Il y avait les grandes surfaces qui étaient arrivées. Il n'y en avait plus de petits commerçants. Alors, il travaillait la nuit. Il en avait marre, quoi, de se lever à 2h30 du matin tous les jours. Il était fatigué. Et on est venu par ici. Parce que mon mari, il est picard, lui.
Le mari de Suzanne a sans nul doute connu la fusion de Gervais avec Danone en 1967. C'est aujourd'hui le numéro 1 des produits laitiers dans le monde. Jean, de son côté, était géomètre et il raconte le changement côté construction.
J'ai même contribué à la création d'un supermarché, un Leclerc. Le Leclerc, il est dans le Val d'Oise, enfin non, il est sur l'Oise, enfin, là où les trois départements se touchent, Val d'Oise, Oise et Seine-et-Marne. Et il y a un supermarché modeste, je vous dis, c'était un Leclerc, qui s'est fait grâce à la complicité conjuguée d'un notaire et d'un géomètre. C'était à 4 km de chez moi, dans les fourneaux courses là. Et tout ce que je sais, c'est que le jour où j'ai créé ce premier centre Leclerc, ça a été une disparition d'une grande surface de betteraves. Un moindre mal. Puis après, ben, l'affaire après de l'extension. Hein. Il y avait quand même cette idée du jumelage entre la grande surface elle-même et puis la galerie marchande, qui était très différente. C'était le début du petit, la fin du petit commerce, déjà, hein. Ça, c'est sûr.
1958, le premier véritable supermarché avec parking ouvre en région parisienne. La galerie marchande, c'est la fin des années 60. Nous sommes à l'apogée de la consommation de masse. Mais l'ancien monde est encore présent. On fait encore son potager, on va encore au marché. Nous retrouvons André, qui se souvient du marché à Château-Thierry.
À Château, c'était le vendredi, pour aller au marché. On allait au marché à Château, c'était pas pour acheter, c'était pour aller au marché. Il y avait les cultivateurs de Sellé-Condé ou de Condé-en-Pré qui venaient vendre leurs œufs, leurs canards, tout ça. C'était une sortie d'aller au marché à Château. Et c'était des paysans. Alors qu'aujourd'hui, le marché à Château, vous allez au marché à Château, vous allez au marché à Mou, ou vous allez au marché à Saint-Quentin, vous serez toujours pareil. Hein. Aujourd'hui, si on vous parle des jardins de la Chenée, vous me direz, c'est où ça? Alors qu'on montait, on montait les brouettes de fumier dans les jardins qui étaient presque sur la Duisse, vous vous rendez compte? Et on cultivait ça. On allait bêcher là-haut, on allait... C'était normal, alors qu'aujourd'hui, les gens qui ont encore 100 mètres carrés de terrain à entretenir, ils sont rares.
Hein. Et tout s'est construit, en fait.
Bon, oui, tout s'est construit, puis les gens n'ont plus d'intérêt.
André n'a pas tort, mais tout change très vite. Et puis, il y a ceux qui, certes, n'étaient plus majoritaires, mais qui ont continué à mettre les mains dans la terre. Les motivations ont changé avec les générations. Le premier argument n'est plus économique et de l'ordre de la survie. Les mots plaisir, santé, écologie ont fait leur apparition.
Ma fille continue toujours. Ma fille, elle habite au Bervilliers, elle a un petit jardin d'ouvriers. Mais là, comme sa salade, ses poireaux, ses carottes, tout ça, elle continue, hein. On a une vie saine. Comme le papa était parti, on n'était plus que toutes les deux. Mais il fallait qu'on se débrouille. Je venais de Paris, ici, chez mes parents. Avec maman, on cultivait les légumes, on mettait dans des bocaux. Et quand on avait besoin, on venait chercher nos légumes. Toujours des haricots verts, des haricots écossais. Et la seule chose que j'ai jamais fait, c'est les tomates en bocaux. Non.
Moi, j'ai toujours eu mon père qui a eu son jardin. Tous les matins, il partait à son jardin. Il revenait le midi, midi et demi. Et puis, il repartait à 3 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures le soir. C'était un plaisir. Des fois, avec mon mari, on allait le chercher. J'aimais bien. Mon père était formidable. Il était formidable, mon père. Il était cheminot, il était chef de gare. Et alors, à 55 ans, il a été en retraite. Et depuis l'âge de 55 ans, il faisait son jardin. Il fallait pas lui abîmer ses carottes ou ses poireaux. Ou ses... Ça, là... Ah oui, c'était son plaisir, ça. Parce que je vois quand papa, il ramenait des poireaux, ils étaient gros comme ça. Il ramenait des asperges, ils étaient grosses comme ça. Quand ma mère, elle voyait ça, elle ne voulait pas les faire cuire. Elle ne voulait pas user du gaz pour si peu. Et c'était de la terre pour faire des habitations, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Maintenant, il y a plein d'immeubles. Où c'est que mon père avait son jardin.
Tout est allé très vite. Et aujourd'hui, une génération plus tard, se développent des potagers en ville et les achats alimentaires en vente directe. André, Pierrette, Jean, Marie-Thérèse, Sylviane, Aimé, Anne, Françoise, Irène, André avec un E, Suzanne, vivent aujourd'hui en maison de retraite.
La nature, je sais pas, est difficile, on dirait qu'elle s'en va. Ça pousse plus comme dans le temps. Dans le temps, dans la nature, ça poussait, vous aimez. Maintenant, vous avez du mal. Hein. Ou alors, il faut leur donner à manger. Ou alors, mettre de l'engrais, il faut mettre. Non, la nature, je pense que, je sais pas, elle s'en va quand même. Ouais.
La voix des aînés, une production signée Partage de voix, avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.